Merci, bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche soir et c'est l'heure du Grand Fauve. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, so let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là, l'œil du tigre mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais laisse-moi une gueule d'atmosphère.
Voilà, la musique.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un petit prince, celui du judo français. Le premier à devenir à la fois champion du monde et champion olympique, c'était il y a tout juste 40 ans. Ce soir, c'est donc le destin, pour le moins protéiforme, de Thierry Rey. De Lagny-sur-Marne à Moscou, voici la 36e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous parles pour des bourris ?
Oui, ça part.
Ça, c'est un excellent burger.
Winter is coming.
Dans quelques jours, Thierry Rey aura 60 ans, l'âge de la sagesse, dit-on. Et ce judoka qui fut si longtemps fougueux vient d'écrire son autobiographie intitulée « Cette vie comme les félins », lui qui fut surnommé le chat du tatami au regard de sa souplesse lors de ses combats. Cette vie, parce que Thierry Rey a aussi été comédien, journaliste ou encore hédoniste, un champion jouisseur, ce Thierry Rey. Et bien ce soir, pour retracer son parcours olympique et atypique, Thierry Rey nous rejoindra dans quelques minutes et il est le seul invité de cet épisode, tout simplement parce que, vous allez l'entendre, il n'y avait besoin de personne d'autre. De la médaille d'or de Moscou au clip de Patrick Bruel, de Jacques Chirac à François Hollande et de sa passion du judo à la grande fête des années 80, Thierry Rey se souvient de tout. Mais juste avant, nous accueillerons celui qui fut l'agent de Thierry Rey pour le cinéma, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'affiche ce soir ?
Patricia Viterbo, starlette et premier grand amour de Johnny Hallyday.
Très bien. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Alors, quel est le programme ?
Ah ah ! Des footballeuses à la télé, des basketteurs au Tibet et 12 cyclistes sur du papier.
À tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec un nouveau sport olympique, puisqu'avec le breakdance, le skateboard, oui, sera lui aussi inscrit au programme des JO de Paris en 2024. Et par ailleurs, je vous invite vivement, oui vivement, à aller découvrir le nouveau film de Jonah Hill, qui est à l'affiche en ce moment. Ça s'appelle 90s, et c'est un petit chef-d'œuvre sur l'univers du skate à Los Angeles dans les années 90. L'occasion pour nous de revenir aux origines du surfing à roulette. Ambiance 60s, voici le flashback.
Comme en Australie et en Californie, le surfing fera fureur cet été sur nos plats. Hors saison, le roll surf permet de s'y préparer. Sur les terrasses et les esplanades, la planche à roulettes donne déjà cette sûreté et cette élégance qui sont l'apanage du parfait surfeur. En fait, le roll surf n'est que la version continentale du surfing. Ce sont les longues périodes d'accalmie du Pacifique qui ont amené un astucieux Californien à remplacer la vague par des roulements à billes.
Vous voyez ces petits roulements à billes là, c'est ce qui fait le prix si cher de la planche à roulettes, parce que ça peut rouler à 9000 tours minute.
Parti de ce principe très simple, le roll surf est tout de même devenu aujourd'hui plus sophistiqué. En dessous, deux trains de roues sur pivot, en caoutchouc synthétique très résistant, montés sur roulement à billes étanche et silencieux. Au-dessus, une planche en plastique injectée d'une solidité et d'une souplesse à toute épreuve.
Cette petite planche de 60 cm montée sur quatre roues articulées permet les plus grandes fantaisies. Hier à Lumini, l'association marseillaise de skateboard organisait une compétition régionale. Au menu du jour, un slalom parallèle et une épreuve de freestyle, c'est-à-dire d'improvisation.
Et puis, épreuve reine du skateboard, la vitesse, à 70 km/h et dans n'importe quelle position.
Tout reste à faire dans ce sport. En plus de ça, c'est peut-être un moyen de locomotion future de demain. La preuve, c'est que vous avez vu qu'il y en a qui existent à moteur, il y en a à voile également. C'est très écologique, c'est très sportif et ça va très vite quand on sait s'en servir.
Oui, enfin aujourd'hui c'est plutôt la trottinette hein, qui a gagné dans les rues de nos villes et c'est quand même beaucoup moins classe que le skateboard. Lui, il ne fréquente que l'élégance, c'est l'ami intime de la distinction. Voici celui qui parle au destin, c'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie, hein.
Ce soir, Dominique, un destin brisé.
Ici, chaque dimanche, nous célébrons les actrices. Toutes les actrices. Les légendes, les étoiles filantes, les débutantes et les actrices importantes, injustement oubliées. Ce soir, notre vedette de l'écran est l'archétype de la starlette à la filmographie mince, mais à la destinée extraordinaire, voire romanesque. Patricia Viterbo était la parfaite jeune fille des années 60. Elle incarnait la grâce, la beauté, la fraîcheur, et pourtant, elle connut un bien cruel destin.
De son vrai nom, Nicole Marie Viterbo.
Oui, elle est née au Vésinet le 21 mars 1939. Élevée chez les religieuses, à Versailles, puis à Saint-Germain-en-Laye, elle s'affranchit cependant très tôt de cette éducation très stricte. Elle devient vite mannequin chez Christian Dior, puis esthéticienne. En 1963, elle débute au cinéma avec un petit rôle d'infirmière dans le film « Des frissons partout » de Raoul André. Au début des années 60, ses fiançailles avec Johnny Hallyday lui valent la une des journaux de cœur et la jalousie de nombreuses jeunes filles en fleurs. C'est le point de départ d'une relation extrêmement passionnelle et pour le moins houleuse. Oui, on s'est tout fait, dira Johnny dans ses mémoires d'Estroy. Le jour de son anniversaire, je lui ai offert une Alpine Renault. Deux jours plus tard, elle me faisait péter les plombs en se baladant dans la voiture avec un vieux micheton qui aurait pu être son grand-père. Nos histoires faisaient la couverture de tous les journaux à scandale, avec des détails incroyables de précision. Les paparazzi ne nous lâchaient pas. À croire que quelqu'un d'extrêmement proche les renseignait. Et si c'était Patricia?
Oui, une relation très compliquée, Dominique.
Et d'ailleurs, les amours tumultueuses de Patricia et Johnny s'achèvent quelques mois plus tard sur une petite route de la campagne landaise. Je venais d'apprendre, poursuit Johnny, que j'allais recevoir un disque d'or pour Let's Twist Again qui s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires et m'étonnait de ma chance. Patricia m'a répondu, histoire de me provoquer, « Moi, ça ne m'étonne pas du tout, tu as vraiment une veine de cocu. » Je l'ai laissée à la première station-service. Au cours de sa fugitive carrière, la jolie Patricia apparaît dans une douzaine de films, principalement des films policiers français, aux titres évocateurs. Les tirer les tireurs, Ces dames sans mêle, Les gros bras ou encore Requiem pour un caïd.
Et puis Dominique, son destin se brise.
Le 10 novembre 1966, Patricia Viterbo meurt d'une façon tragique sur le tournage de son dernier film, Le judoka agent secret. La voiture que conduit son partenaire Henri Garcin dérape sur les quais mouillés de la Seine au niveau du pont de l'Alma et plonge dans ses eaux froides. Si l'acteur s'en tire avec quelques blessures, la jeune actrice meurt noyée. Elle avait 27 ans. Endeuillé par cette disparition précoce, Johnny Hallyday lui dédie sa chanson « Maudite rivière ».
Eh bien voici Patricia Viterbo dans « Ces dames s'en mêlent » avec Eddie Constantine.
Je commence à comprendre pourquoi ils m'ont attaché les mains.
Où avez-vous caché les dollars?
C'est une manie. Erickson m'a demandé ça par radio.
Erickson?
Oui, votre chef. Vous savez où il est?
Mais naturellement, il est en sécurité chez...
Où?
Oh, ça ne vous regarde pas.
Oh, ne vous fâchez pas.
Mais il y a de la place pour un homme comme vous dans leur organisation. Ce que j'en dis, c'est pour votre bien.
C'est à eux qu'il faut le dire.
Je leur dirai. Vous m'êtes sympathique, Jeff. Très sympathique. Alors?
Faut qu'on en reparle quand j'aurai les mains libres.
C'est ça.
Patricia Viterbo, qui fut l'actrice de judoka, évidemment, clin d'œil à notre invité du soir, Thierry Rey, un des grands champions du judo français, Dominique Besnéa.
Ah, je l'aime beaucoup, Thierry. On l'attend.
Merci beaucoup, Dominique Besnéa. À la semaine prochaine. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir, donc l'histoire de Thierry Rey. Il y a quelques semaines, le 2 mars précisément, j'étais à Lyon, au Festival Sport, Littérature et Cinéma organisé par Thierry Frémaux à l'Institut Lumière. Au dîner, je me suis retrouvé assis face à Thierry Rey, petit prince du judo français, entre autres champion olympique à Moscou en 1980, des Jeux historiques, des Jeux de la guerre froide. J'étais ravi d'être face à lui. Et très vite, je lui ai proposé de venir ici au micro pour qu'il nous raconte sa vie, ou plutôt toutes ses vies. Il m'a dit oui, alors je lui ai demandé avec qui il souhaitait venir. Il m'a répondu « Je serais bienvenu avec mon grand frère de cœur, Bernard Tchougouyan, mais il est mort brutalement il y a quelques semaines. Je crois que je préférerais venir tout seul. »
J'ai répondu, pas de problème. On laissera une chaise vide autour de la table en mémoire de Chulouyan. Maintenant, reprenons depuis le début. Qui es-tu, Thierry Ray?
Je suis né le 1er juin 1959, j'ai donc 21 ans, depuis 2 mois. J'habite dans la région parisienne, je fais partie de l'équipe de France de judo. Je suis arrivé au judo à l'âge de 9 ans, sur les conseils d'un médecin, auprès de mes parents, parce qu'il paraît que j'étais un petit peu nerveux, j'étais un petit peu turbulent. Il paraît que le judo, ça calmait les esprits, ça canalisait un peu les foufous. Alors je suis allé là. Au départ, ça me plaisait pas du tout. Et puis c'est venu peu à peu, et puis après, depuis, c'est devenu ma passion.
Une passion, oui, une passion. Thierry Ray, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Alors vous avez tout gagné en judo, champion du monde, champion olympique, champion de France, champion d'Europe. Mais vous m'avez dit que peut-être, sans Chulouyan, tout ça n'aurait pas été possible. Moi, j'aimerais qu'on commence par parler de ce Bernard Chulouyan. Qui était-il, Thierry Ray, ce monsieur qui n'est pas là ce soir, qui est mort d'une crise cardiaque il y a quelques semaines à Marseille, je crois?
Bernard, c'était d'abord un immense judoka, un champion. Il a été champion du monde. Il a été 3e aux Jeux à Moscou, d'ailleurs avec un résultat un peu bizarre. Il était vice-champion du monde à Paris en perdant derrière le grand Fuji qui a été 4 fois champion du monde. Donc c'était un immense champion français, mais c'était aussi surtout un transmetteur. C'était un homme qui était un professeur avec un grand P. Il donnait sa passion, il donnait son savoir. Et ben moi j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'avais 15-16 ans. Et il m'a donné les clés pour aller au-delà de mon propre talent. Il me l'a fait découvrir, il m'a donné la confiance, et voilà, on était très unis. Et il l'a donné à plein d'autres personnes.
À une génération, finalement.
À une génération, absolument.
J'ai lu que vous aviez déclaré que c'était votre Baryshnikov. Qu'est-ce que ça veut dire, grand danseur étoile russe puis américain, ce Baryshnikov? Qu'est-ce que ça veut dire, c'était mon Baryshnikov?
Ben, ça veut dire que Bernard avait une manière de pratiquer le judo qui était tout à fait flamboyante. C'était un danseur, c'était un homme qui pouvait donner des leçons aux maîtres japonais sur les déplacements, sur la manière de placer son corps. Jean-Luc Rouget, qui était le premier champion du monde français, a d'ailleurs eu une phrase très belle sur lui. Il a dit Bernard Chulouyan faisait pas du judo, il faisait du tchudo.
Ah oui.
Parce qu'on l'appelait, on le surnommait Chou. Oui. Et Jean-Luc a dit, il faisait du tchudo. Ça veut vraiment, ça exprime vraiment toute la flamboyance et l'originalité de la manière dont il avait adapté cet art à lui-même.
Alors revenons à vous, Thierry Ray. Vous aurez 60 ans dans quelques jours. Vous avez atteint l'âge de la sagesse.
Arrêtez,
mais il paraît qu'enfant, vous étiez très turbulent, un gamin un peu agacé par la vie peut-être, et qu'on vous a transféré chez les frères maristes pour une éducation. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir des maristes? Au moins une rigueur peut-être? Ou quel souvenir vous avez de cette éducation chez les frères maristes?
Vous avez dit le bon mot, je crois, qu'entre l'école du judo, qui est assez phénoménale sur son côté parascolaire, quand on est môme, on se rend pas du tout compte de ce qu'on est en train de faire. Mais il y a tout, il y a la règle, il y a le prof, il y a les mots, on apprend beaucoup de choses. Les maristes, ils m'ont appris ça, ils m'ont appris une rigueur, ils m'ont appris la vie en groupe, ils m'ont appris à m'ébattre au milieu de beaucoup de garçons. Il y avait que des mecs. Moi, j'ai fait du CE1, donc de 7 ans jusqu'à 16 ans, sans voir une fille dans une cour de récréation, donc c'est un peu particulier. Et c'est plutôt un bon souvenir, même si c'était âpre, même si c'était dur, même si ça manquait un peu de profondeur, j'aimais pas trop l'école. Alors est-ce que c'est... J'avais envie plus de fond que de forme. J'aurais aimé trouver un professeur qui m'emmène, comme je l'ai eu d'ailleurs en judo avec mon premier professeur et puis Bernard Chulouyan.
Alors à 9 ans, vous entrez donc dans cette sphère du judo. Vous allez donc très vite progresser. Il paraît que votre père vous a dit « un jour tu seras champion olympique, Thierry, mon fils ». J'imagine qu'un gamin, ça le marque, un père qui dit ça. On a peut-être envie de faire plaisir à son père aussi, non? Dans l'imaginaire d'un gamin, un père qui dit ça, c'est fort, non?
Alors oui, c'est fort. Alors pas pour lui faire plaisir, c'est fort parce que moi j'étais un très mauvais élève, j'étais nul dans plein de choses. Donc on a toujours peur du rapport aux parents, c'est toujours, pardon du terme, mais chiant de traîner ce sac pourri d'être mauvais, de ramener des notes mauvaises. On a toujours pas honte, mais c'est une situation pas plaisante vis-à-vis des parents. Et tout d'un coup, quand votre père vous dit ça, vous voyez toute la confiance qu'il a en vous.
Alors vous allez très vite avoir une précocité dans les palmarès, champion du monde à 20 ans, champion olympique à Moscou en 80 à 21 ans. On va revenir évidemment sur Moscou, des jeux particuliers, hein, puisque boycott des États-Unis d'Amérique, du Japon, donc des jeux en pleine guerre froide. Quels souvenirs vous avez, Thierry Rey, vous en tant que Français qui débarquait dans cette URSS en 1980 à l'âge de 21 ans?
Alors moi, j'ai des souvenirs un peu particuliers parce que d'abord, j'étais à l'armée. J'étais militaire puisque j'étais rentré en préparation olympique un an avant.
Bataillon de Joinville.
J'avais été détaché pour préparer les Jeux. Et quand il y a eu ce mouvement un peu des équipes de France pour affirmer leur envie d'aller à Moscou malgré les événements qu'on connaît, moi, j'avais reçu une lettre de l'armée me disant « soldat Rey, devoir de réserve, taisez-vous ». Donc d'abord j'étais étonné et puis
taisez-vous.
Après voilà oui genre vous n'avez pas en tant que soldat pour part un débat et donc on était parti là-bas pas comme équipe de France, on était parti là-bas comme équipe olympique de judo du comité olympique français. Et puis sportivement, c'était très particulier parce qu'il y avait toutes ces histoires de boycott où, comme vous l'avez dit, il y avait pas les États-Unis, il y avait pas le Japon, etc. Mais moi, j'étais champion du monde en titre.
Et oui.
Alors donc, ça changeait beaucoup de choses pour moi. Moi, c'était un moment et une envie de deux mois et des mois avant, avec un objectif tout à fait précis de gagner, d'affirmer que japonais ou pas, ou ce qu'est certaines nations ou pas, il fallait que je confirme un titre où j'avais battu les Japonais. Dans les deux ans qui ont précédé les Jeux, j'ai rencontré les quatre Japonais qui étaient sur les podiums au Japon, et donc je les ai tous battus. Et je suis arrivé en voulant gagner ce tournoi. Parce que moi, c'était plus un tournoi qu'autre chose. J'ai pas rien vu des Jeux. Moi, je suis arrivé un mercredi parce que j'avais beaucoup de poids à perdre. Donc Moscou, c'est qu'à 4 heures d'avion. Et donc, j'ai voulu partir très tard pour assumer cette histoire de poids. Et donc, je suis arrivé le mercredi. J'ai fini de perdre mon poids le jeudi. J'ai combattu le vendredi. J'ai fait un peu la fête le samedi et je suis rentré le dimanche. Donc les Jeux, je les ai pas connus.
En fait.
J'ai pas connu la fête des Jeux. Mmh. Je suis allé chercher ma médaille olympique.
Mais dans des conditions un peu particulières, parce que pas de Marseillaise, pas de drapeau tricolore, un hymne olympique, un drapeau olympique, une frustration pour un athlète français, j'imagine un peu, non?
Exactement, comme je vous le disais, on représentait l'équipe de France olympique.
Donc pas de Marseillaise.
Et non pas la France, pas de
à
Marseillaise.
À cause du boycott, à cause de la situation géopolitique.
À cause du gouvernement français qui avait laissé les fédérations libres de choisir si elles y allaient ou pas. Mm-hmm. Donc sur le podium, pas de Marseillaise, l'hymne olympique que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Pas de drapeau français, mais l'hymne olympique. Mm-hmm. Donc une situation bizarre et que je découvrais alors qu'entendre la Marseillaise pour un athlète vainqueur, c'est toujours un grand bonheur. Et mon côté cocorico ne se démentira jamais.
Et donc le soir, on est champion olympique, on a envie de sortir, peut-être avec les copains, on a envie de faire la fête un petit peu, mais on est à Moscou, c'est un peu compliqué, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce qu'il paraît que c'est assez cocasse quand même ça.
Oui, alors c'est d'une époque où il n'y avait pas toutes ces choses qui se déroulent aujourd'hui. Il y a le Club France, il y a les partenaires, les télés.
Voilà.
Donc nous, on était à Moscou dans un village olympique totalement fermé, avec des militaires partout, des grillages, des trucs. Donc en fait, on a fêté ça dans une cuisine qui était un appartement témoin qui devait être vendu après les Jeux. Donc il y avait rien, il y avait un pauvre frigo qui traînait. On a bu quelques bières.
Moi, j'étais de la bière tiède, paraît-il.
Absolument, parce que le frigo marchait à moitié. Moi, j'étais évidemment éreinté de la journée puisque je m'étais levé à 5 heures du matin et qu'il était 11 heures passées. Donc voilà, ma fête olympique a tourné court, mais elle n'en était pas moins intense puisque j'étais avec mes potes.
Champion olympique à 21 ans quand même.
Premier
Français à faire le doublé championnat du monde, champion olympique.
Absolument. Donc c'était des moments de fraternité forts. Vraiment.
Alors je vais vous faire maintenant écouter un vieux son d'archives des années 60 qui résumait à l'époque l'esprit du judo.
Avoir un cœur libre, droit et pur. Avoir un cœur qui, comme de l'eau vive, se plie aux lois de la nature. Voilà l'idéal réalisé par le judo, ce sport pratiqué par beaucoup de gens, sans distinction d'âge ou de sexe, ce sport attrayant, propre à développer le corps et l'esprit aussi bien qu'à former la personnalité.
Et voilà. Alors Thierry Rey, est-ce que vous
c'est
avez...
C'est pour moi ça.
Eh oui, bah, est-ce que vous avez le cœur libre, droit et pur? En étant plus sérieux, qu'est-ce que ça vous a apporté le judo dans la vie, dans votre vie d'homme?
Ah ben moi, ça m'a construit, ça m'a rendu libre. Le problème de tout ça, c'est quand on arrête entre 25, 28, 30 ans.
Vous avez arrêté jeune, vous?
Alors, oui, mais j'ai commencé jeune.
Oui.
C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'étais en équipe de France senior.
À 24 ans, vous avez rangé le kimono. C'est jeune quand même.
Oui,
vous
mais
avez
à 13 ans, je faisais le championnat de France minime en perdant 3-4 kilos. Mm-hmm. Moi, à 25 ans, je me voyais pas.
Mais ça, c'est intéressant, Thierry, parce que de loin, on peut se dire, Ray, il a fait tout en condensé. 6-7 ans de carrière, le palmarès complet, tous les titres, et hop, je me barre. En fait, c'est pas ce que vous dites. Ça vous a semblé long, vous, déjà. Mais ensuite, déjà à 24-25 ans, vous vous dites, peut-être que là, les années 80, notamment, peuvent m'offrir d'autres défis dans ma vie, d'autres vies à vivre. Et ça, vous le présentez assez vite, finalement.
Oui, parce que quand ça s'arrête, moi, ce que j'aimais faire, c'est combattre. C'était la compétition. J'ai donné des cours quand j'étais... Enfin, quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, je donnais des cours à des enfants, ça. Je ne me voyais pas entraîneur, je ne me voyais pas aller au Japon pour continuer à... Non, j'avais envie de vivre, j'avais envie d'aller respirer un autre air, j'avais envie d'aller croquer le monde. Donc voilà, et quand on a 25 ans, on se dit que tout est possible. Il y en a qui sortent à peine de fac. Moi, j'avais un vécu, j'avais une matière humaine.
Et un foutu palmarès.
Un bon petit palmarès. Une envie d'aller voir ce qu'était le monde ailleurs, au-delà de ce que je connaissais.
Vous parlez du Japon, vous y êtes allé un peu, hein, vous en parlez dans cette vidéo.
Oui, j'y suis allé plusieurs fois.
Pour des entraînements. Oui. Vous dites que c'est une expérience assez intense, ça vous a marqué profondément ces séjours au Japon, pour quelle raison?
Parce que je m'y suis senti très seul, c'était très dur physiquement.
Donc des entraînements, hein, c'est ça, hein, oui. C'était pour des entraînements pour vous.
On partait avec l'équipe de France, et donc comme on l'expliquait, moi j'avais mes camarades d'équipe de France qui avaient 10 ans de plus que moi, qui étaient installés dans la vie, avec des femmes, des enfants, ça. Moi j'étais minot, j'avais 18 ans, 20 ans. Donc je savais, voilà, ils m'accompagnaient, mais c'était pas mes amis, c'était pas les mecs de ma génération à qui je faisais le con tout le temps, quoi. Donc c'était bizarre, j'étais au stage au Japon, et puis surtout j'étais très léger, je faisais 60, 62, 63, 64 kilos, et là-bas vous pouvez pas refuser, quand un type de 85 kilos vient vous inviter, il vous salue et vous devez travailler avec lui. Et j'ai morflé, mais c'était horrible, enfin c'était dur, il y a eu des grandes phases de solitude, et moi physiquement j'ai vraiment...
Morflé,
mais appris de ce judo japonais, qui est intransigeant. Voilà, ça m'a fait passer un cap dans la douleur, mais aussi dans l'acceptation et de savoir jusqu'où il faut aller.
Avant de passer à toute votre vie, dans la seconde partie, Thierry Ray, j'aimerais qu'on revienne au tout début, dans ces années à l'INSEP. Là, vous étiez intégré à l'INSEP. Quand on lit votre autobiographie, on sent qu'il y a eu quand même beaucoup de plaisir dans ces années-là. Le sport, bien sûr, mais quelques clopes, un peu de whisky, pas mal de filles. Ça semblait être très jubilatoire. Une époque qui a disparu un peu aujourd'hui. J'ai l'impression que pour devenir un champion, comme vous l'avez été, je ne sais pas si ce que vous avez vécu dans les années 70, à ce moment-là, ce serait encore possible aujourd'hui. Vous en pensez quoi, ça, Thierry?
D'abord, tout ça est vrai. C'était donc, assez jubilatoire.
Les clopes, le whisky et les filles.
Oui, mais pas trop.
Mais
c'était des moments, quand on s'entraîne, on ne peut pas faire tout ça. En revanche, quand il y avait les coupures, ben voilà, on est un minot de son âge, on est dans sa génération et on sort et on a envie de déconner, on a envie de rigoler.
Et on vit.
Et on vit. Mmh. Et surtout, moi, je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je sortais de lieux où dans ma tendre enfance, je suis passé de chez mes parents à l'INSEP.
Ou des frères maristes à l'INSEP.
Voilà. Donc, si vous voulez, la révolution culturelle a été assez intense. Ouais. Ça nous empêchait pas de bosser, mais on s'amusait
bien sûr,
pas mal.
Bien sûr. On va continuer à parler de toute votre vie, Thierry Ray, juste après la pause musicale. C'est l'heure de l'orchestre sur Inter, emmené ce soir par Delgrès, bluesman créole. Le titre joué ce soir, c'est comme ça, ainsi soit-il.
C'est comme ça, la vie, la vie. C'est comme ça, pour accepter. C'est comme ça, la vie, la fête. C'est comme ça. Je dis, je vois.
Une finale très indécise entre Thierry Ray et le sud-coréen Kwak Woo-chong. Un adversaire vulnérable en contre, Thierry Ray s'en était aperçu. Il marque un premier avantage à 2 minutes de la fin du combat. Le sud-coréen sera ensuite pénalisé pour non-combativité avant que le français n'accentue son avance en marquant un coca sur balayage.
Philippe Collin.
4 ans après Jean-Luc Rouget, Thierry Ray, 20 ans, remporte un titre mondial dans la catégorie des super légers. Il est champion du monde à 20 ans.
Sur France Inter.
En à peine 7 saisons, Thierry Ray s'est construit un palmarès inouï de champion. C'est très simple, en judo, le petit prince a tout gagné. Et puis, à l'âge de 24 ans, en 1984, il décide de changer de vie. Sans doute attiré par d'autres défis, mais aussi par des personnalités qui le fascinent. Oui, nous sommes au début des années 80, et lors d'une émission sportive animée par Robert Chapat, Thierry Ray a invité en plateau un artiste qui n'est vraiment pas associé à l'univers du sport. Et pourtant, Serge est là pour Thierry.
Thierry Ray, donc, trophée d'honneur avec Bernard Hinault. Thierry Ray, vous avez demandé que Serge Gainsbourg soit avec nous ce soir. Il est là. Serge Gainsbourg.
Je crois que Thierry, vous avez un cadeau à donner à Serge Gainsbourg avant qu'il vous le remette, le trophée d'honneur d'Antenne 2.
Oui, parce que je voudrais d'abord remercier M. Chapat de rencontrer M. Gainsbourg dans une émission de sport. C'est assez cocasse. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire un petit cadeau qui cadre peut-être pas bien avec le personnage. Mais ça l'aidera peut-être à faire un petit peu de sport. Ben bien sûr, il faut ouvrir, c'est là pour ça.
C'est tout simplement un survêtement. Thierry, vous allez recevoir le trophée d'honneur des mains de Miss France.
Moi, je dois signaler une chose, monsieur.
Attention.
Je dois signaler une chose, c'est que ce garçon, il fume et il boit autant que moi.
Alors Thierry, j'ai une passion pour cette archive. Et encore, on n'a pas l'image, parce que Gainsbourg, clope en plateau, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Déjà, est-ce que vous en souvenez de ce moment-là? C'est un souvenir pour vous?
Ah, mais moi, je m'en souviens très bien, parce que c'était tellement long que Gainsbourg, il avait appelé une jeune femme qui travaillait avec lui, qui l'avait amené, il lui avait filé un billet de 500 balles, et il lui avait demandé d'aller chercher une bouteille de Jet au drugstore du coin. Donc elle était partie dardard, elle était revenue au bout de 20 minutes, et c'était long, et on picolait du Jet, et moi, j'étais déglingué, quoi. Mais il était fascinant.
En fait, vous aimiez Gainsbourg. Vous aviez 22 ans, là, en 81.
Mais oui, enfin,
vous aviez une fascination pour lui.
Mais oui, mais j'avais une fascination.
Que je
partage, vous savez, quand on avait 14 ans, en 73, 74, qu'on regardait les valseuses, voilà, il y avait toute cette libération depuis les années, fin des années 70, et on n'échappait pas au truc, et moi le premier, donc, en étant chez les Maristes, quand je sortais le soir, ben voilà, j'avais envie, j'écoutais les Pink Floyd, j'écoutais Jacques Dutronc, j'écoutais Gainsbourg, j'écoutais François Berruyer, j'écoutais, puis il y avait Coluche, voilà, c'était assez fascinant.
Alors en écho à Gainsbourg, on lit dans votre autobiographie « Cette vie chez Stock », Thierry Ray, que après le judo, assez vite, vous avez voulu devenir comédien, acteur, ce que vous êtes devenu d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers ce monde? À l'époque, les passerelles, elles n'étaient pas si simples entre le monde du sport et le monde du cinéma, par exemple. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Thierry Ray se dit « Tiens, je vais devenir comédien de théâtre ou de cinéma ».
Mais en fait, c'est comme le judo. J'étais assez fasciné et je vivais avec une actrice depuis quelques années.
On peut dire qui c'est.
C'était Miu Miu, Miu, Miu absolument. Bien sûr. Donc j'avais la chance, le plaisir, le bonheur d'aller sur les tournages depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je regardais, j'observais. Et assez vite, j'ai été prendre des cours, parce que il était impossible, moi, la manière dont je fonctionne, de me dire, voilà, je vais être acteur, comme ça, du jour au lendemain. Donc, Marie Trintignant, très gentiment, m'a emmené dans un atelier où on a travaillé avec Gabriel Lazur, avec Yann Legac, qui est le mec qui est dans le professeur dans Fouras,
oui,
le père Fouras.
C'est le père Fouras, Yann Le Gac.
Absolument. C'est un ancien danseur de Béjart. C'est un ancien danseur de Béjart.
Maurice Béjart.
Et on se retrouvait tous les quatre à travailler, etc. Et évidemment, j'ai fait des castings et je me suis retrouvé pour la première scène à jouer en face de Michel Serrault.
Et, oui,
et je peux vous dire que c'était énorme.
Pas rien.
C'était un moment
et
de
il
dingue.
Il devait vous mettre une claque. Mais il n'osait pas trop taper trop fort.
Oui, oui, oui.
Mais quand même, champion olympique de judo, vas-y, tape Michel, quand même, c'est pas très grave.
Voilà, moi, je jouais le rôle d'un gros voyou, évidemment, le gros voyou de service. Et Michel devait me balancer une tarte et il n'osait pas. Et je disais, mais monsieur Serrault, mais tapez-moi! N'hésitez pas, frappez-moi! Il disait, mais non, mais écoutez! C'était assez cocasse. Et c'était surtout très impressionnant de faire ses premiers pas sur un plateau en face de ce monstre.
Alors donc il y a l'acteur Thierry Ray qui commence, sa carrière. Et puis j'ai découvert autre chose, Thierry Ray, que j'avais complètement oublié, vous concernant. Nous sommes en 1989, c'est l'année d'un hit de la variété française. On écoute un extrait.
C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. La place des grands hommes.
Alors, place des grands hommes, Patrick Bruel. Tout le monde connaît cette chanson, évidemment. Et il y a un clip que tout le monde a en tête, évidemment, aussi. Et alors là, surprise, vous êtes dans le clip.
Mais grave.
Comment vous êtes retrouvé dans ce clip?
Mais parce qu'à l'époque, on allait tous dans le restaurant qui s'appelait le Potage Idéal, qui était tenu par Roland et par Jean-Jean. Et évidemment, toute la faune.
Oui, la faune de la nuit.
C'est
les
ça. Mais non, puis, oui, même pas de la nuit. Enfin, les artistes. Mm-hmm. Donc, il y avait Richard Bohringer, il y avait Patrick Bruel, il y avait Bacri, il y avait Darmon, il y avait Lindon, voilà, tout le monde commençait sa carrière. C'était les années 80-84. Et Patrick, très gentiment, m'a proposé d'aller tourner ce clip qui est quand même c'est devenu une sorte d'institution du clip.
Ah bah complètement.
Alors,
c'est patrimoine culturel français.
Élie Chouraqui tournait en 35. Il y avait des gros trucs Panavision et tout. C'était énorme. 4 jours de tournage. Mais régalé.
Il y a Antoine Duléry, je crois aussi.
Il y a Duléry, oui. C'était, moi, je joue un rôle de composition et c'était, j'ai adoré faire ça.
Tourner en plus cas, j'encourage tous nos auditeurs à regarder à nouveau, une nouvelle fois le clip et on voit
N'hésitez
Thierry Ray,
pas, mais bien sûr.
qui a 30 ans dans le clip et le petit costard cravate, ça lui va très très bien.
Ouais.
Alors ensuite Thierry, il y a les années 90, là vous êtes devenu compagnon de Claude Chirac, les années 95, 96,
oui.
Non 96, voilà.
Oui. Mais avant il y a l'histoire de, enfin pardon, il y a le moment où je rentre à Canal.
Ça on va y revenir juste après.
En 92.
Voilà, c'est Canal Plus avec les commentaires, il y a Bietri qui vous fait venir pour commenter les Jeux Olympiques.
Absolument.
Donc vous avez eu un enfant Martin avec Claude, voilà, ça s'est réglé. Mais il y a deux histoires que vous racontez que j'aime beaucoup quand même avec la famille Chirac, si vous êtes d'accord qu'on les raconte. Mmh. D'abord, il y a un dîner chez l'ami Louis, où j'ai trouvé extraordinaire. Vincent Lindon vous invite à venir dîner avec les Chirac, et là, il y a du monde à table. Qui est là avec vous dans ce restaurant avec Chirac?
Alors d'abord, il y a Bernie, quoi. Il y a Bernadette qui est là. Et puis surtout, il y a la famille de l'oscarisé américain.
Et on vous dit, monsieur, madame Peck.
Oui, voilà, on me dit, voilà. Et donc, je suis face à Grégory Peck et sa femme Véronique qui est française. Hein. Et donc, moi, je suis là et je suis d'abord très timide devant cette histoire. Et arrive le patron, quoi.
Jacques,
le grand Jacques. On est en octobre, novembre.
Donc là, il est un peu 94. En loose. Hein. Il est un peu en loose. Hein. Il est à 14%.
Baladure
est tout en haut.
Et lui, il est plein de bourre, il est plein de balles. Rien ne l'inquiète. Reprenez du pâté, tout ça. Enfin, tout va bien. Et je dois dire que je suis assez étonné de cette personnalité qui dégage une énergie flamboyante.
Qui n'est pas votre tasse politique,
pas
d'ailleurs.
Pas du tout.
Plutôt de l'autre côté.
Le Chirac des années 80, il y a 2-3 choses qui sont quand même, on peut s'interroger. Ces âges-là, j'ai 20-25 ans, donc c'est pas du tout mon truc. Et il est séduisant, et humainement, il est chaleureux, et il est à votre écoute, et il parle, et il échange, et voilà. C'est un homme attachant.
Il y a une seconde histoire, Thierry, que j'aime beaucoup dans ce livre. C'est une visite privée au Grand Palais du Picasso et ses maîtres. C'est une grande exposition à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que je trouve ça génial.
Écoutez, on arrive aux démarches d'un mardi soir pour l'exposition Picasso et ses maîtres. Et puis il y a le président Chirac qui est là.
Il est élu, ça y est, il est président de la République.
Voilà, il est élu, enfin il est en fin de mandat même. Je sais même plus s'il est même plus président, je pense. Je pense qu'il est même plus président. Bref, on commence la visite et au moment où on va rentrer, arrive juste Mick Jagger. Oui. Mick Jagger avec sa compagne. Et donc, moi, je suis là, putain, il y a Mick Jagger, c'est énorme, quoi. Et donc, Mick Jagger, qui parle français comme vous et moi, hein, arrive et il voit Monsieur le Président Chirac. Donc, il va vers lui, Monsieur le Président, tout, et il commence à lui parler. Et Jacques Chirac lui répond très aimablement. Et l'autre lui déclame toute sa flamme pour la France, voilà. Et Chirac écoute, et bon, il salue, il se sépare. Et on fait quelques mètres, on fait une dizaine de mètres, et Chirac me pose la main sur l'épaule, et il me dit, dites-moi Thierry, pouvez-vous me rappeler le nom de ce braillard? Donc ça veut dire qu'il avait identifié que c'était un chanteur, sûrement un chanteur, mais il ne savait pas qui il était, et c'était juste Mick Jagger, quoi. C'est vous montrer tout, parce qu'en plus Jagger doit être un peu plus jeune, mais Chirac, il était quand même dans une époque où il aurait pu se déhancher sur Mick Jagger, mais pas du tout. Il savait même pas qui c'était. C'était stupéfiant.
C'est charmant à lire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Thierry, les années 90, c'est aussi le retour quelque part vers le monde du sport, puisque Bietri vous appelle pour commenter le judo en 92 à Barcelone. Et alors là, Thierry, il y a des années et des années où tout le monde s'en souvient, vous êtes devenu un commentateur hors pair. D'abord le judo, puis le rugby, puis la boxe, puis le foot, tous les sports, parce que vous êtes arrivé avec un nouveau ton à l'époque. C'était un peu compassé. Tout d'un coup, Thierry Rey se pointe avec une autre manière de faire. C'était quoi la manière Thierry Rey pour commenter le sport? Comment vous pourriez résumer ça, Thierry?
Je pense que c'est, je me suis retrouvé à commenter des combats où il fallait que je livre ce que je ressentais. Et ce que je ressentais, c'était une vision de d'entraîneur, de complice, de mec qui sait ce qui se passe quand deux types se tiennent et se meulent la tronche. Je ressentais tout. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher. Évidemment, avec le côté cocardier, quand vous aviez un Français ou une Française qui rencontrait un Japonais, un Russe et tout, et évidemment, vous accompagnez tout ça. Faut faire attention, vas-y, mettez. Alors, quand c'était un peu, parce que mon sport peut être un peu chiant parfois.
À commenter.
Oui, donc j'essayais un peu de détendre, de faire rire, de
rendre vivant la chose.
Voilà. Et puis quand il y avait des Français, j'y mettais Maniaque et mon amour. Et en fait, je m'aperçois que d'avoir beaucoup regardé le sport, moi j'étais un dingue de sport quand j'étais jeune. Je regardais du rugby, je regardais du foot, je regardais tout, la F1, François Sever, Jean-Pierre Rive, tout. Je regardais tout, ça me rendait dingue de regarder du sport. Et ben, c'est aussi ressorti à ce moment-là. Avec l'autorisation, j'avais pas fait d'école de journalisme, j'étais
donc freestyle un peu.
Voilà, j'étais bloqué de rien, devait durer 7 jours. J'étais consultant, vas-y Toto, lâche-toi quoi.
Et ça a duré très longtemps.
Ça a duré 15 ans, Canal.
Incroyable. Et tout le monde s'en souvient d'ailleurs encore aujourd'hui. Parmi toutes vos vies, Thierry Rey, il y a aussi, il faut évoquer, cette complicité entre guillemets avec François Hollande. Vous allez devenir son conseiller sport à l'Élysée en 2012, qui va vous conduire jusqu'à la candidature de Paris en 2024. Donc, maintenant, vous appartenez au comité d'organisation de ces Jeux Olympiques décrochés par Paris. Un nouveau défi donc pour Thierry Rey. Qu'est-ce que ça veut dire un défi réussi pour Paris 2024? À quelles conditions pour Thierry Rey ce sera réussi ce défi de Paris 2024?
Alors moi, il y a vraiment deux éléments importants. Il y a évidemment la compète en elle-même. Comment on va pouvoir, dans ces 15 jours de Jeux Olympiques, ces 11 jours de Paralympiques, parce qu'il faut pas oublier, derrière, il y a les Paralympiques, c'est très important aujourd'hui. On va pouvoir faire vibrer, célébrer cette fête olympique. Comment les 13 millions de gens qui iront dans les stades, comment les 8 millions de personnes qui suivront ça sur des grands écrans, comment la France va pouvoir se mobiliser pour suivre ces 206 nations qui viennent. On reçoit 206 pays pendant... Voilà, il faut que Paris soit une fête dédiée au sport, mais pas que. Il faut aussi que ce soit de la culture, qu'on soit ensemble et qu'on vive un moment inoubliable. Ça, c'est incontournable. Et on va y arriver. J'ai pas aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qui m'interroge et ce qui me motive, c'est comment, dans ces 5 ans et demi, jusqu'au jeu, on va, grâce à ce prétexte, quelque part, d'avoir les Jeux dans 5 ans et demi, on va pouvoir développer la thématique du sport dans notre société. Moi, ça me semble important. Je dis pas de faire du haut niveau, mais juste de vivre le sport. On l'a vu, ça amène les gens à être ensemble. On a vu la grande fête quand on a été champion du monde. Il y a des clubs de sport où on peut, voilà, qu'on se bouge. Je pense qu'en termes de santé publique, il y a aussi des gros enjeux, parce qu'aujourd'hui, la sédentarité, c'est un vrai problème. En termes éducatifs, pour les mômes, ben, voilà, je pense que c'est une manière de... Voilà, c'est une expression. Le sport, moi, je pense qu'il y a vraiment deux piliers en dehors du boulot. C'est la culture et les sports. Comment, quand on sort du boulot, on se nourrit d'autre chose, on découvre, on va faire marcher ses neurones sur la vie. Et je pense que la culture, à travers le cinéma, la lecture, le théâtre, voilà, c'est des choses où on vibre, où on a des émotions. Et le sport, ça vous donne des émotions avec les autres. Et ça peut aussi vous donner des émotions sur votre corps, si vous en faites. Donc voilà, c'est pour moi, c'est important, ça.
Dans quelques jours, Thierry Rey, vous aurez 60 ans.
Oui, il paraît,
mais ça c'est la vie, on est tous concernés par ça. Oui. Vous avez eu quelques pépins de santé, vous en parlez d'ailleurs dans ce livre qui ouvre le livre, hein. Vous avez eu une sorte de tumeur bénigne, à la fois c'était pas grave et très grave parce qu'il fallait vous opérer et parce qu'il fallait s'en débarrasser, mais c'était une opération très lourde. Comment vous allez aujourd'hui, Thierry ?
Ah bah, je vais très bien, mais quand je vous parle, par exemple, je suis quand même perclus de serment. Vous voyez, c'est comme si ma jambe gauche et un peu mon torse étaient dans une combinaison de plongée S, alors que je ferais du L. Vous voyez, donc je suis un peu serré, je sens pas bien mon, et puis j'ai un peu mal à la nuque. Voilà, il y a 6 ans déjà où j'ai subi donc cette, on allait me chercher une, donc cette, comme vous l'avez dit, cette tumeur bénigne, mais dans la moelle épinière. Donc on m'a ouvert la moelle. Donc c'est quand vous allez le matin à 5h.
C'est une très grosse opération.
Ouais, voilà,
très dangereuse.
Vous prenez votre douche, vous dites qu'est-ce que je vais devenir. Et puis voilà, moi je fais avec. Il y a des paresthésies, il y a tout ça, mais je m'en fous. Voyez-vous, je
vivais.
Avec...
Oui, absolument. Vous êtes venu en scooter aujourd'hui,
oui,
par exemple.
Oui, bien sûr.
Donc on vient en scooter et on fait du scooter, on se trimballe.
Mais oui.
En 2024, vous aurez 65 ans,
ouais.
Thierry Rey. Les gens vous ont écouté ce soir. Ils se disent, mais non, Thierry Rey, il a 7 vies, même 14 vies peut-être. Qu'est-ce que vous allez faire après? Ça ne va pas s'arrêter là, Thierry Rey.
Je vais glander, mais ça va être bon. Mais si, c'est une vie entière à glander. Mais quand je vous parlais de culture, de... Mais moi, je prends des cours de guitare en ce moment, je m'achète des guitares, je lis.
Rockstar. Vous allez faire rockstar.
Alors peut-être. Non. Non, mais je vais prendre du plaisir. Je vais marcher, je vais m'amuser. Mais je vais continuer à m'amuser.
Voilà. Eh bien, c'était un joli programme, en tout cas. Merci à vous, Thierry Rey, d'être venu ce soir pour nous raconter vos 7 vies. Titre de votre autobiographie disponible aux éditions Stock. Prenez soin de vous dans votre nouvelle vie, celle de sexagénaire qui arrive dans quelques jours. À très bientôt, Thierry Rey.
Merci. C'est très gentil. Au revoir.
Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me 5 de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me 5 ce soir?
Bon bah moi j'aime bien commencer avec
un big up, voilà.
Ouais. Ouais, avec de bonnes nouvelles quoi. Et en voici une. On vient d'apprendre que la finale de la Ligue des Champions féminines qui opposera l'Olympique Lyonnais aux filles du FC Barcelone sera diffusée gratuitement ce samedi 18 mai à 17h50 sur TMC. Voilà. Donc tout le monde pourra voir ce grand match de football européen. Pour une fois que les filles sont à égalité avec les garçons, on prend et on se met devant son écran en attendant, je ne le dirai jamais assez, la Coupe du Monde qui débutera maintenant dans moins d'un mois. Can't wait.
Oui, on a hâte que cette Coupe du Monde commence en France, la Coupe du Monde des filles. La suite, Joy, avec du basket à l'autre bout du monde, sur le toit du monde même.
Ouais, et c'est une histoire sublime parmi d'autres que l'on peut lire dans le numéro 2 du très très beau magazine Entorse, hein, magazine intégralement consacré au basket. C'est un reportage de Clément Guerre intitulé « Entre deux mantras ». Et alors ça raconte comment au cœur du monastère de Palpung Cherabling au Tibet, les jeunes moines ont fait du basketball leur deuxième religion, mais vraiment. Alors qui eût cru que face à l'Himalaya, sur des playgrounds vraiment flambant neufs, des gamins jouent alors soit en robe rouge traditionnelle ou en short et t-shirt à faire des dunks et des dribbles entre deux prières. Ce dossier est fascinant, on découvre vraiment que tout le monastère ne voit que des bienfaits à ce sport collectif et que depuis qu'il a été introduit il y a maintenant une dizaine d'années à peu près, le temple bouddhiste s'est transformé. Les apprentis moines férus de ce sport à la mode en Inde et au Tibet vivent avec leur temps, ils sont connectés, ils se sentent davantage complices. Et alors selon leur dire, hein, des gamins, ils sont même plus motivés, par exemple, pour faire des trucs comme la vaisselle, tous ensemble. Voilà, donc c'est hallucinant.
Grâce
vraiment.
Au basket.
Voilà. Des esprits sains dans des corps sains, évidemment, mais pas seulement, parce que les jeunes moines les plus doués sont carrément autorisés à participer au grand tournoi de basket d'Dharamsala. Un tournoi présenté dans l'article suivant, hein, du magazine, comme quoi faut lire vraiment tout en torse. Lisez en tort, c'est un magazine qui, en plus d'être vraiment, vraiment très beau, est passionnant.
Et alors après le basket et la littérature, on passe au football et au cinéma.
Et bien sûr, le Festival de Cannes va débuter cette semaine. Mais comme tous les ans, le Festival La Lucarne, consacré au foot et au cinéma, aura bientôt lieu lui aussi et il vient de dévoiler sa programmation. Alors des films en cette année de Coupe du Monde féminine résolument consacrés aux crampons et aux filles. On citera par exemple la projection du film Freedom Fields, soit trois footballeuses et leur équipe dans la Libye post-révolutionnaire, ou un autre qui me tente beaucoup qui s'appelle Nociaman Girgalas, l'histoire des footballeuses U17, hein, donc qui ont moins de 17 ans, vénézuéliennes, qui s'envolent pour participer à la Coupe du Monde féminine en Jordanie, emmenées par leur maître à jouer, Denia Castellanos, et alors elles n'ont qu'un seul but dans la vie, ramener le Graal à la maison. Voilà donc une programmation pour la Lucarne assez exigeante, mais intéressante, alléchante. Alors allez vite sur le site pour réserver vos places. La Lucarne, c'est à partir de début juin dans plusieurs lieux parisiens.
Oui, c'est une manifestation parisienne en effet. Sinon, musique et football, ça peut aussi matcher, Joy.
Eh ben, ça pourrait. Ça pourrait, Colin. On vient d'apprendre cette semaine que le gardien de but d'Arsenal, Petr Cech, 36 ans hein, quand même, censé prendre sa retraite sportive en fin de saison, aurait déjà trouvé sa reconversion. Alors on le savait, hein, ce Petr, fan de musique et excellent batteur, hein, vraiment. Eh bien, selon le quotidien britannique The Sun, l'ex-gardien de Rennes, je le précise quand même, hein, parce qu'on ne se souvient pas assez, de 2002 à 2004 et de Chelsea, hein, de 2005 à 2015 par exemple, pourrait sortir un single sur lequel il serait accompagné par Roger Taylor. Hallucinant, eh oui, l'ancien batteur du groupe anglais Queen, rien que ça. Donc Petr Cech n'a jamais fait les choses à moitié, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un ancien footballeur qui se lance dans la musique. Mais là, vraiment, on a hâte d'écouter.
Et pour finir, Joy, ton conseil culturel du jour.
Il s'agit du livre d'un écrivain sportif dont je vous ai déjà parlé ici et conseillé un roman. Bon là, bien sûr, il s'agit de son nouveau, parce que quand même, je ne vais pas faire deux fois le même. Voilà, l'auteur, c'est Olivier Aralambon, qui revient aux éditions Premier Parallèle avec Mes coureurs imaginaires. Mes coureurs imaginaires, ce sont 12 nouvelles, en fait. 12 histoires, 12 cyclistes, anonymes ou connus, champions ou losers, mais tous animés par la passion du vélo. Alors, les plus calés reconnaîtront facilement le juste Bartali, hein, à qui on avait consacré une émission ici, mais aussi Coppi ou notre contemporain Bardet. Et puis, il y a ce jeune sportif, Lamib, qui, moi, m'a particulièrement touché. Voilà. Pour l'heure, il est au sommet. Mais c'est un gamin qu'on sent pétri de doutes et de faiblesses. On sent qu'un rien pourrait le faire chuter. C'est un jeune homme qui tente par le vélo de s'extraire de là d'où il vient. Alors, bon, voilà, je vous dirai pas la fin. Non, il faut vraiment que vous liiez cette ode, enfin, plutôt, du coup, ces odes, aussi différentes soient-elles, à la petite reine, parce qu'elles en valent vraiment la peine.
Ça s'appelle Les coureurs imaginaires d'Olivier Aralambon qui a paru aux éditions Premier Parallèle. Donc merci beaucoup Joy.
Mais de rien.
Et à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 36e émission de notre saison 4 a été coachée ce soir, bien sûr, par H2M, l'incontournable Henri-Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Guillaume Roux. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre et à Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire et le destin d'un autre grand champion français. Cette fois, il sera question de tennis et à une semaine du début de Roland-Garros, Guy Forget, directeur du tournoi désormais, viendra nous raconter sa vie de tennisman. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.